Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Déco Déco, podcast qui s'intéresse au monde de la déco en Suisse. Nos invités, qui sont des entrepreneuses, entrepreneurs suisses, sont des passionnés par leur métier. Nous sommes Cathy et Emmanuel, bien sûr on adore la déco, et avec ce podcast, deux fois par mois, notre invité nous fait découvrir son univers. Retrouve-nous sur Insta Déco Déco et bonne écoute. Bonjour Hélène, c'est sympa de nous recevoir ici dans ton atelier à Décalquer à Montreux. Donc tu es une jeune entrepreneuse de bientôt 28 ans. Ici nous sommes avec Hélène Bezzola qui fait du graphisme de son métier, de sa formation. Et à côté de ça, elle fait des créations en passant du pins par le tapis qu'elle crée elle-même et qu'elle réalise elle-même avec de la belle laine vierge de nos grands-mamans et plein d'autres choses encore. Bonjour Hélène et merci de nous recevoir.
Hello, c'est un plaisir de vous recevoir dans mon petit atelier qui est grand et petit en même temps.
Donc bonjour Hélène, merci. Raconte-nous déjà un petit peu ta formation, comment tu en es arrivée, où tu en es aujourd'hui.
Alors, j'ai une formation de graphiste à la base que j'ai fait à l'ECAL à Renan. J'ai fini en 2016. Et puis, du coup, après, j'ai travaillé comme graphiste. Et puis, en fait, j'ai toujours beaucoup dessiné dans ma vie. Mais mes études ont fait que j'ai arrêté de dessiner parce que j'avais plus le temps de dessiner à côté, parce que mes projets pour mon école me prenaient tout mon temps et tout mon stress. Et du coup, après, j'ai fait des stages et j'ai commencé à travailler. Et du coup, j'ai eu plus de temps pour moi. Puis, j'ai recommencé à faire des projets. Puis j'avais envie de faire des projets d'illustration, mais qui se retrouvaient pas forcément sur du papier, de pas faire de l'illustration pour de l'illustration. Et j'ai commencé en faisant un pins que j'ai vendu à mes amis et à ma famille et à mon papa qui a dû en acheter 40. Et puis après, une chose en amenant une autre, j'ai fait de plus en plus de projets sur de plus en plus de supports. J'ai testé plein de choses et puis au fur et à mesure, je me suis retrouvée avec un atelier et de quoi faire des tapis, voilà.
Ton univers est très coloré, aussi bien pour les pins, qui sont aussi des messages assez forts, je trouve. Tu véhicules des messages forts à travers ces pins. Et à côté de ça, si on prend tes tapis, ils sont plutôt colorés, mais plus naïfs, je trouve. Est-ce que tu peux expliquer ça?
Alors oui, il y a un peu de tout, je pense, parce que j'ai pas forcément un style défini, c'est pas ce que je recherche non plus. À la base, ces projets, comme j'ai dit avant, du coup, de travailler en tant que graphiste à côté, c'était un peu un exutoire pour juste faire ce que j'avais envie de faire et puis retrouver un peu une sorte de... Ouais, de naïveté, puis de jeu dans le dessin, et puis d'avoir ce truc, j'ai envie de faire quelque chose de bleu. Aucune raison à ça, juste ça me ferait plaisir et en fait de juste le faire. Et c'est peut-être pour ça que je me retrouve avec des dessins pour l'instant pour des tapis qui sont plus naïfs, mais j'expérimente aussi des choses. Je commence à expérimenter un peu plus l'abstrait aussi que je m'interdisais avant parce que il y a quelque chose de très satisfaisant dans le figuratif, en tout cas pour moi, parce que j'associe beaucoup le dessin à un jeu, un peu comme un jeu de Lego, mais sauf c'est du dessin. Et puis, ouais, donc du coup, comme exutoire, puis d'utiliser plein de couleurs, plein de matières, des paillettes, des trucs qui sont considérés comme kitsch, parce qu'en fait, juste, ça me fait plaisir. Et puis, c'est tout ce qui compte, en fait, pour ces projets. C'est juste d'avoir des plaisirs à le faire.
Donc, il n'y a pas d'objectif particulier de vente, de commercialisation. On t'a rencontré sur un marché d'artistes. Oui. Et donc, c'est comme ça que tu te fais connaître, finalement?
Oui, par les marchés, puis par beaucoup Instagram, en fait, maintenant. Et il n'y a pas d'objectif de vente à la base, mais en fait, maintenant que j'ai un atelier, c'est quand même un peu une mini-obligation que je puisse au moins payer mon loyer d'atelier. Puis en fait, le but, c'est que je puisse me rembourser et puis mettre un petit peu de sous de côté pour réinvestir dans d'autres projets, d'autres techniques, des encres différentes pour la sérigraphie. Justement, j'ai pu commencer à faire des tapis parce qu'en vendant des pins, je me suis fait un petit peu de sous, j'ai pu économiser et acheter de la laine et ma machine pour faire des tapis. Donc, ça serait mentir de dire qu'il n'y a aucun objectif de vente parce qu'en fait, c'est utile pour pouvoir continuer Après, c'est pas à ça que je pense quand, quand je crée des objets, en tout cas. J'essaye, en tout cas.
On va parler un peu technique. La sérigraphie, déjà. Puis après, tu nous expliqueras un peu les tapis. Comment ça se passe, comment ça se fait. Parce que tu as vu, on est complètement novice.
Alors, bon, la sérigraphie, déjà, je pense que je ne suis pas la personne forcément à qui me demander. Parce que je fais ça un petit peu n'importe comment. Mais des fois, ça marche, donc c'est chouette, tant mieux. Du coup, la sérigraphie, c'est sur le principe de cadre, quand une toile tendue sur lequel... On vient donc normalement appliquer un produit photosensible qu'on utilise pour créer un chablon. Et du coup, après, on vient étaler de l'encre sur ce cadre et ça permet d'imprimer sur toutes sortes de supports, sur le tissu. Ce qui est super parce que le design textile, en fait, je trouve que le tissu, comme support pour le dessin, c'est un très bon support. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ce soit dans l'impression ou dans le tissage. En fait, c'est ça qui m'a amenée à la sérigraphie à la base. C'est vraiment l'idée de pouvoir intervenir sur du textile. Et du coup, on utilise ces cadres qu'on enduit d'encre, un peu comme des gros chablons, pour pouvoir imprimer une ou plusieurs couleurs, superposées, jouer avec les transparences ou les opacités. Donc, voilà. C'est là, ça.
Tu fais la sérigraphie sur... Tu disais sur papier ou sur tissu?
Alors,
tu fais des t-shirts, des tote bags?
Un peu tout. J'ai essayé sur papier. Récemment, j'avais jamais essayé avant. Et j'étais contente du résultat. C'était chouette. Après, j'avais commencé sur tissu pour faire des tote bags, des t-shirts. À la base, c'était des t-shirts pour mes amis et moi. Aussi imprimer des tissus pour ma maman qui fait beaucoup de couture. Donc, j'expérimente un petit peu pour pouvoir... essayer de créer des motifs et des patterns. Récemment, j'ai essayé aussi sur bois, parce qu'avec un ami, on a eu un projet de construire un éventail tout en bois que je sérigraphiais, et lui, il le construisait parce qu'il est designer industriel. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais et beaucoup de ratés pour y arriver. Mais de nouveau, comme je disais avant, c'est pas mon métier, j'ai aucune formation dans la sérigraphie, donc c'est vraiment de l'expérimentation pure. Mais c'est ça qui est chouette, justement, c'est de pouvoir essayer et faire et se rater sans trop de pression, même si c'est pas toujours facile de se louper plein de fois de suite. Mais c'est comme ça qu'on apprend, et ça, c'est tellement gratifiant quand enfin à la fin on y arrive. Ça, c'est vraiment super.
T'as vraiment l'impression de libérer ta créativité dans cette partie-là de ton activité quotidienne, plus qu'avec le graphisme?
Oui, alors le graphisme, c'est créatif aussi, mais c'est très différent. Ça dépend des projets, ça dépend de... Ouais, ça dépend du thème, du sujet, de si on a l'inspiration. En fait, le graphisme, c'est créatif, mais c'est un peu « sois créatif maintenant ». Et des fois, c'est un petit peu compliqué, parce que quand tout d'un coup, on doit faire, une affiche ou une édition, quoi, on doit créer une identité, et en fait, on doit le faire pour la fin de la semaine. Si on n'est pas dans un mood créatif, faut le faire quand même. Et du coup, c'est une autre approche, je trouve, tandis que ça, ce genre de projet, c'est vraiment, j'ai envie de le faire, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Et du coup, c'est beaucoup plus des projets... qui sont plus personnels, qu'on ressorte aussi, et c'est des projets qui m'amènent plus de satisfaction, je pense, à la fin, parce que c'est vraiment... Je l'ai voulu, donc je l'ai fait.
En sortant de l'école, tu savais que tu irais ici, que tu viendrais là, que tu parcourrais ce chemin?
Pas du tout, non. En sortant de l'école, déjà, je pensais que j'allais pas être graphiste parce que j'étais sûre que j'étais très mauvaise. et puis après, j'ai fait des stages, puis je me suis vraiment donnée à fond. Je me suis dit, non, je vais être graphiste, je vais faire du graphisme et tout ça. Donc j'ai beaucoup donné, enfin beaucoup, je me suis concentrée là-dessus, en sortant. Puis après, je me suis toujours dit que mes projets à côté, c'était sympa de dessiner comme hobby, en fait. C'était un plus dans le graphisme aussi, de pouvoir faire de l'illustration. Mais voilà, et puis c'est revenu un petit peu comme ça. Je pense que c'est en sortant de l'école, on m'avait dit, maintenant, tu vas avoir un atelier et tu vas faire des tapis avec des vaches dessus. Je me serais dit, c'est trop cool, mais comment je suis arrivée là?
Ouais. Alors, parle-nous des tapis, justement. Alors, comment t'en es arrivée au tapis?
Une grande histoire d'amour. du coup, comme je disais avant, le textile, ça m'a toujours beaucoup attirée. Que ça soit le tissage, j'ai fait tisser de mes illustrations dans des couvertures avant, et j'adorais en fait la trame que ça donnait au dessin. Ça changeait, ça apportait vraiment quelque chose, ça changeait. Du coup, le textile, ça m'intéressait beaucoup. L'illustration aussi, du coup. Et puis, j'avais ce besoin de plus dépendre de fournisseurs, de pouvoir un peu tout faire toute seule. J'avais cette envie parce que des fois, c'est pénible d'attendre sur des fournisseurs. Puis aussi pour la satisfaction de tout faire soi-même aussi. Maintenant, on est dans une société où il y a beaucoup de consommation, beaucoup de choses. Pour moi, c'était important de retourner vers quelque chose, de faire les choses soi-même, en fait, et d'être autosuffisante. Et du coup, j'en discutais avec une amie, et puis elle me dit « Ah, mais j'ai vu une vidéo d'une fille qui a une sorte de machine incroyable pour faire des tapis. » Puis elle m'a envoyé, et j'étais un peu là « Oh, c'est incroyable !» Après, je me suis dit « Ok, je vais faire ça. » J'ai commandé la machine, et après, j'ai fait des insomnies pendant environ 3 mois, tellement j'étais surexcitée de recevoir cette machine parce qu'elle était en rupture de stock. J'ai dû attendre 3 mois avant de la recevoir. Et du coup, j'ai tout prévu dans ma tête. Je me suis dit, ok, il faut que je me trouve un atelier parce que dans ma chambre, ça va pas être possible. Il faut que je construise un cadre. Il faut que je trouve de la laine. J'avais pas envie d'acheter de la laine neuve parce que c'est quelque chose qu'on trouve facilement en seconde main. Et du coup, j'ai un peu monté tout ce petit plan dans ma tête. J'ai demandé à mon papa de m'aider pour faire mon cadre. J'ai épluché Ricardo et Anibis et j'ai racheté tous les stocks de laine de grand-mère que j'ai trouvé. Et je me suis retrouvée avec un peu tout ce matériel. Et après, je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à avoir un atelier maintenant. Et un peu, le destin a fait qu'une place d'atelier s'est libérée dans les locaux de Décalqués, où on se trouve maintenant, que j'ai pu récupérer. Et je me suis installée là et j'ai pu commencer à faire des tapis. Donc ça fait pas si longtemps, ça fait depuis juin que j'ai commencé. Et c'est vraiment quelque chose... Enfin moi ça me correspond pleinement, j'ai l'impression. Parce que c'est une technique où il y a plein de phases différentes. Ça prend du temps mais ça prend pas trop de temps non plus. Je pense que par exemple le tissage à la main c'est quelque chose qui est hyper chronophage. Tandis que là, pour l'instant, les plus grosses pièces que j'ai faites, elles m'ont pris 11-12 heures de travail. Donc ça reste envisageable. C'est long, mais c'est pas...
Mais c'est des petits tapis.
Voilà.
Que ça fait.
Enfin, oui, c'est les petits. Par exemple, celui que je vous ai montré avant, qui a un cercle avec la tête de vache au milieu, qui fait 80 cm de diamètre, lui, j'en ai eu pour 11-12 heures de travail. Mm-hmm. Donc... c'est du temps, mais ça va. Et puis du coup, il y a plein de phases. Il y a la phase où d'abord on utilise cette machine. On tend d'abord une toile sur un cadre. Après, on utilise une machine dans laquelle on fait passer la laine. Et on vient, ça s'appelle tufter. On vient donc broder le tapis sur la toile, un peu grâce à cette machine. Et après, une fois que c'est fait, on vient appliquer une sorte de... soit une colle. Moi, j'utilise une colle sans solvant, mais je sais qu'on peut utiliser aussi du latex naturel pour en fait venir fixer les fils de laine au dos du tapis. Après ça sèche et après c'est les finitions, donc c'est venir tondre le tapis, ce qui est aussi un moment très satisfaisant à faire. Et puis après faire tout le dos, donc venir replier les bords, mettre une toile de fond, mettre un biais pour faire des jolis angles, tout ça. Et puis après aussi, surtout, une partie dont on ne parle pas assez qui est extrêmement longue, c'est aspirer et frotter le tapis pour enlever tous les bruchons.
Ah.
C'est pas la partie la plus intéressante, mais ça prend une plombe de temps parce que vraiment c'est hyper volatile la laine. Et en fait, je pense qu'à chaque fois, je me dis, ah, c'est bon, mon tapis est fini, et en fait, j'ai encore une heure de travail à juste enlever tous les petits déchets. Ouais. Donc voilà, je crois que j'ai parlé de toutes les étapes.
C'est une mini entreprise familiale parce qu'il y a plein de...
Oui.
Comment on appelle ça, c'est pas des outils ou des petites machines que tu nous as montré tout à l'heure dans cet atelier qui te servent à déjà faire des bobines de laine et tout ça. Raconte-nous l'histoire parce que je trouve ça quand même assez incroyable.
Oui, alors en fait, du coup, avant je disais que j'ai racheté de la laine de seconde main et parmi cette laine, j'ai acheté un très gros stock de laine à une dame qui faisait des tapis dans les années 70. Et en fait, c'est tout des écheveaux. Donc les écheveaux de laine, c'est pas des bobines, c'est une sorte de grandes boucles de laine. Et il faut les mettre en bobine pour pouvoir les utiliser pour faire des tapis parce qu'il faut qu'elles se déroulent facilement, que ça fasse pas de nœuds, que ça s'en mêle pas, en fait, que la laine rentre facilement dans la machine. Et pour ça, j'utilise un petit bobinoir, je crois que ça s'appelle comme ça, qui était à ma maman dans les années 80 quand elle avait une machine à tricoter. Et du coup, j'ai récupéré ça de sa cave. Et puis, pour défaire les échevaux, pour les mettre sur cette petite machine, ce petit bobinoir, j'ai récupéré un échevoir, je sais pas comment ça s'appelle. Une machine à défaire les échevaux, on dirait comme ça, qui appartenait à mon arrière-grand-mère, qui était encore chez ma grand-mère, et du coup, voilà. Et oui, aussi, mon papa a construit mon cadre, donc c'est vrai que c'est un petit peu tous les outils de la famille. J'ai aussi le vieux tape-tapis de ma grand-mère, justement, pour enlever la poussière de laine, donc c'est vrai que c'est un peu que de la récup, mais pour ce projet, ça me tenait vraiment à cœur d'essayer de récupérer le maximum de matériel ou d'utiliser des matériaux qui sont soit qui viennent de Suisse, parce que cette technique pour faire des tapis, c'est une technique qui revient énormément à la mode. Maintenant, on en voit de plus en plus et du coup, il y a de plus en plus de fournisseurs, par exemple de toiles qu'on utilise pour les faire. Mais c'est tout des toiles qui viennent des États-Unis ou comme ça. Et du coup, moi, ça me tenait à cœur de trouver d'autres matériaux, de tester, d'utiliser des matériaux faits en Suisse ou à base... Là, en l'occurrence, moi, ma toile, c'est de la jute, donc qui est à base de plantes. Et voilà, ouais, en plus, moi, c'était du matériel qu'il y avait dans ma famille, donc ça me paraissait logique de le réutiliser au lieu de chercher du nouveau, quoi.
Donc, les pins, un petit peu moins. À fond sur les tapis, j'ai vu que tu faisais des écharpes,
oui,
des étoles.
Ouais.
Donc tu combines comme t'as des périodes ou tu mélanges un peu tout?
Je crois que je mélange un peu tout. Là ces temps je suis pas mal à fond tapis parce que j'ai commencé il y a pas si longtemps et puis que j'ai un peu plein d'idées ces temps pour les tapis, donc voilà. Après les écharpes et les couvertures que je fais, ça par contre je les fais produire. En général, j'ai fait plus en hiver parce que je pense que le froid appelle l'envie de faire des écharpes et des couvertures. Et les pins, c'est un petit peu quand j'ai le temps et quand j'ai une idée, en fait. Dès que j'ai une idée où je me dis « Ah, ça serait très marrant de faire un pins en forme de raclette », ben, je le fais. Voilà. c'est un bon gros mélange, je pense. Ça rejoint ce que je disais avant, où le projet donc, de maison et maison, c'était de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Mm-hmm.
Là, tu es à décalqué depuis combien de mois,
années? Je suis à décalqué depuis 4 ans. Donc, en tant que graphiste, je travaille dans un bureau de graphisme. Et ça fait depuis juin, donc depuis... ça fait 6 mois. Non, 6 mois déjà, purée. Bon, ça fait 6 mois que j'ai ma place d'atelier aussi à décalqué que j'ai pu récupérer pour faire mes projets personnels à côté.
Donc c'est tout récent, mais est-ce que tu as des projets futurs d'agrandissement, d'association, de collaboration? Là, vous êtes plusieurs personnes à louer ces bureaux, vous êtes une quinzaine dans ces locaux. Il y a des synergies qui se passent, il y a des projets qui pourraient se monter avec d'autres personnes?
Oui, alors totalement, on collabore souvent sur des projets, en fait, dès qu'on a le temps et dès qu'on peut, dès qu'on a l'envie. Et c'est vrai que là, depuis que je suis à l'atelier, mes voisins d'atelier, il y en a plusieurs, mais il y a Nolan Cardona qui est tatoueur et Hugo qui, de son nom... de graphiste qui s'appelle Spicy Graphy, qui fait beaucoup aussi de dessins. Et en fait, avec les deux, on a eu des projets de tapis, donc l'envie que les deux viennent dessiner en fait directement sur la toile et puis que moi je réalise les tapis pour faire une collaboration. Donc c'est une collaboration qui va se faire bientôt, j'espère. C'est vrai qu'elle passe un peu entre d'abord je dois vite faire ça et ensuite ça et ensuite ça pour tel et tel marché. Donc c'est vrai qu'elle se passera dès qu'on aura les trois du temps. Donc il y a ça déjà comme collaboration qui va se faire. Il y a toujours des idées de collaboration. Après, avec d'autres personnes, est-ce qu'elles vont se faire ou pas? C'est toujours un peu... Dès que les deux personnes ont le temps, voilà. Moi, je suis toujours très ouverte aux collaborations. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que ça me sort un peu de ma zone de confort. Et puis ça me fait voir d'autres choses. Pour l'instant, c'est un peu tout. Je me laisse un petit peu porter. Enfin, je me sens déjà hyper chanceuse de pouvoir faire 50% du temps ce que j'aime, que ça me paye mon loyer d'atelier, d'avoir la place de faire ça. Donc, je n'ose pas trop me projeter, même si intérieurement, je me projette totalement en train de faire des tapis de bain pour Beyoncé. Ce qui serait mon rêve absolu.
Avec des paillettes.
Mais ton style. Enfin, voilà. Mais du coup, j'essaye un peu de me laisser aller et me laisser vivre parce que je suis une grande angoissée, une grande stressée. Et si du coup, je commence à trop me projeter après... Après, je bloque et je panique. Et après, je fais plus rien. Parce que je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais est-ce que vraiment j'ai acheté 400 kilos de laine? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, voilà. Du coup, oui, des projets, mais en même temps,
tu te laisses
j'essaie
un petit
de
peu
me
porter.
Laisser aller. Ouais. Ouais, de me laisser porter.
Et t'es ouais. jeune aussi, donc t'as le temps de voir quand même. Hein.
Alors, tu l'as présentée comme indépendante, mais elle n'est pas du... Enfin, tu te sens indépendante?
Alors, c'est une très bonne question. Je sais pas. Du coup, je suis employée à 50% ouais, de ce côté où je suis pas indépendante. Et pour Maison et Maison, je pense que je suis en train de le devenir. En tout cas, c'est un peu un objectif d'avoir un peu de travail comme ça. Ouais. Et d'avoir ces projets Maison et Maison en tant qu'indépendante. Enfin, je suis déjà concrètement, officiellement, je suis déjà considérée comme indépendante pour Maison et Maison. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment un travail. Et je pense que c'est bien que ça soit un peu un entre-deux. C'est mis un travail, parce que je prends de temps en temps des mandats, mis un peu ma passion à côté, mis un peu mes projets exutoires, semi-artistiques d'un autre. Et du coup, c'est une bonne question, mais j'arriverai pas franchement à y répondre, parce que je pense que c'est un peu un gros mélange de plein de choses, et puis c'est aussi des questions que je suis en train de me poser maintenant depuis quelques mois. Je me dis, ok, est-ce que je suis indépendante, est-ce que je fais grandir ça, comment je fais grandir, est-ce que j'en ai envie, comment ça va se passer, je sais pas, et du coup j'ai toujours pas réussi à y répondre, donc je vous dirai dans 6 mois ou dans une année, mais pour l'instant c'est vraiment les réflexions que je suis en train d'avoir, et j'arrive pas du tout à y répondre. D'où l'idée de me laisser un peu aller, c'était un peu, en fait, la solution que j'ai trouvée, me laisser aller là-dedans, sans trop réfléchir, parce que j'ai passé récemment des mois à me retourner le cerveau dans tous les sens, savoir comment ça... Enfin, ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, pourquoi j'allais le faire, et...
Just do it.
Voilà, mm-hmm. Exactement.
Ouais. Hélène, quelle est, à ton avis, ta principale qualité ou ta force qui t'a permis d'en arriver là, ce qui te fait avancer tous les jours?
Alors, je pense que c'est une... je pense que c'est une qualité comme un défaut, mais c'est peut-être que je me laisse emporter par mes idées très facilement, et je peux partir un peu dans mon univers et dans mon truc loin, très très loin, et on peut me perdre un peu, pas forcément en mode rêveuse, mais tout d'un coup je vais me dire, oh mon Dieu, ça est mélangé à ça, est mélangé à ça, et c'est incroyable, et je deviens un peu surexcitée et hyper optimiste. Et du coup, je pense que c'est une qualité d'un côté, parce que ça me mène à faire plein de choses, à essayer plein de choses, et à essayer des choses absurdes en fait, et c'est ce que j'aime aussi dans ce que je fais. J'essaie de créer des choses qui n'ont pas forcément... Enfin, qui ont du sens pour moi, mais qui sortent un peu de nulle part, et c'est ce qui me motive. Mais c'est aussi un défaut, parce que des fois, je m'emballe trop. Après, je peux être beaucoup trop stressée, parce que je me suis trop emballée au début, puis je me dis, oh mon Dieu, en fait, j'ai prévu tout ça. Je me suis projetée dans plein de choses, j'ai investi dans plein de choses, mais en fait, c'est quoi la réalité? Enfin, de revenir un peu à la réalité, des fois, c'est un peu compliqué et c'est un peu stressant. Donc, je ne sais pas si c'était très clair, mais je pense que...
Oui.
Je pense que ça, c'est une qualité, un défaut que j'aime. Et en tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis et qui me permet encore de créer plein de choses. Et ça, c'est super. Et de me motiver jour après jour.
Oui, tu t'autorises toute liberté à créer.
Voilà.
Ce qui est... une grande chance quand on a l'esprit comme le tien.
Et d'où vient le nom Maison Maison? Et pardon, Maison et Maison.
Maison et Maison.
Je l'avais pas dit.
Alors, ça vient un peu de nulle part. Je pense que c'est, comme je disais avant, il y a un truc dans l'absurdité que j'aime beaucoup, qui n'a pas forcément de sens. Et en fait, c'est juste que j'avais fait un petit pins en forme de maison qui brûle. À un moment donné, quand je l'ai fait, je crois que je me suis dit, bon, allez, je me lance, je fais un compte Instagram juste pour mes projets et on verra bien. Et il fallait que je trouve un nom et j'avais pas d'idée. Et en fait, j'avais Spins Maison et je me suis dit, tiens, le mot maison, c'est quand même un joli mot et c'est marrant de le répéter. Et c'est comme ces mots qu'on répète plein de fois et ils perdent tout leur sens. Et du coup, je me suis dit, ah, maison, bah, ça sonne vachement bien. Je vais garder ça. Et après, je me suis dit que ça pouvait être marrant de rajouter « et maison » parce que ça me faisait penser à père et fils. Enfin, c'est ces vieilles entreprises qui sont un peu... Jean Charpentier, père et fils depuis 1982. Et du coup, j'étais un peu là, bah, maison et maison depuis...
Et nous, on aurait dû faire déco et déco, alors.
Ouais. Déco et déco.
Mais du coup, c'est un peu la seule explication que je peux donner parce okay. qu'on a... Enfin, c'était un peu mon...
C'est l'absurde.
Voilà, en c'était vrai. Le cheminement... d'idées que j'ai eues, mais c'est un peu venu comme ça, et puis voilà.
Il faudra qu'on explique le train aussi, hein, parce que décalquer, c'est...
Décalquer.
Ouais. Ah, oui, il faudra l'expliquer.
Tout est dans le jeu de mots.
Voilà. Tu utilises donc Insta, les réseaux sociaux.
Ouais.
Et comment aussi tu te fais connaître, je parle plutôt de l'aspect vente, par exemple, mm-hmm. de tes pins ou des tapis.
Ouais.
Nous, on s'est rencontrés à Lausanne, à la Cité des Créateurs. Ouais. Tu fais souvent les marchés.
Ouais, j'essaie d'en faire pas mal parce que j'adore rencontrer les gens. En fait, c'est très fatigant de parler toute la journée et de rencontrer des gens, mais c'est super. Et puis, en fait, moi, à chaque fois, je suis ébahie où je me dis, mon Dieu, ces gens que je ne connais pas, par exemple, portent une écharpe que j'ai faite ou un tapis que moi j'ai fait chez eux. Et je me dis, mais c'est pas ma maman qui est un peu... Je suis fière de toi, donc je prends ce que tu as fait chez moi. C'est vraiment des gens que je connais pas et ça me sidère. Et ça me met totalement en joie, enfin vraiment, je suis un peu là, waouh, c'est trop bien, et puis je vois ces gens, puis je peux parler avec eux, et puis ils sont gentils, et c'est
un... Donc t'as un shop en ligne, parce que ces gens-là, tu les connais pas, donc tu leur as envoyé quelque chose.
Non, je dis au marché, rencontrer ouais. les gens dans les marchés, comme ça, et non, j'ai pas encore de shop en ligne, j'ai une page Etsy, je crois qu'il y a encore 2-3 trucs dessus, mais je crois qu'elle est fermée maintenant. Parce que j'ai comme projet de me faire un site internet avec un shop en ligne. Parce que pour l'instant, ben, je vends ce que je vends, c'est dans les marchés où les gens m'écrivent directement sur Instagram. Il y a aussi des boutiques qui revendent mes produits. J'ai vu que vous avez fait un podcast avec elle, il y a les Amazon à
oui.
Genève, ouais.
Ah, oui.
Il y a une autre boutique à Nyon qui s'appelle The Gallery, je crois.
Ah, t'es dans la boutique des Amazon.
Oui, ouais. Et puis...
bel endroit.
Oui, ouais, super beau, ouais. Mais du coup, j'étais en train de me refaire un site internet avec un shop en ligne, parce que pour l'instant, c'est juste les gens qui m'écrivent sur Instagram pour m'acheter des choses, s'ils ont envie. Je peux vous raconter l'épopée qui a été de ramener cette laine ici.
Alors vas-y,
donc du coup, c'est cette laine de seconde main que j'ai achetée, comme j'étais avant, une dame qui faisait des tapis dans les années 70 en Suisse allemande et qui m'a dit qu'elle vendait 200 kilos de laine. Et je me suis dit, ah ben c'est beaucoup, mais c'est un investissement. C'est de la laine vierge, donc c'est super. J'y vais. On est allé donc en Suisse allemande avec mon meilleur pote, son van et moi chercher cette laine. Et en fait, on est arrivé là-bas et on a découvert qu'il n'y avait pas 200 kilos de laine, mais en fait 400. Et du coup, bon, on a réussi à tout mettre dans le bus, on a réussi à ramener ça, mais le bus était rempli, mais jusqu'au plafond, j'ai jamais vu autant de laine de ma vie. Du coup, j'ai pu en stocker un peu à mon atelier. Chez ma mère, il y a une pièce qui est remplie de laine du sol au plafond. C'est absurde, on a calculé, c'est comme si on avait tondu 200 moutons. C'est comme s'il y avait, c'est comme s'il y avait 800 km de fil de laine.
Oh là là.
C'est ridicule.
Alors, tu traverses la Suisse ?
Oui, je traverse la Suisse en laine.
Avec la laine.
Voilà. Si quelqu'un se perd et veut traverser la Suisse,
c'est fil d'Ariane.
Voilà, exactement. Qui l'appelle ?
Le plus drôle, c'est quand tu es allé chercher cette laine, tu n'avais jamais fait de tapis avant.
Si, j'avais commencé un peu, bah, j'avais justement acheté des petites fins de stock de grand-maman, enfin, mm-hmm. pas des fins de stock de grand-maman, des fins de stock de laine qui appartenaient à des grand-mamans sur Ricardo comme ça, mais c'était t'as la laine acrylique et du coup qui rend bien, qui a des très jolies couleurs, mais qui, ben, de 1 est en acrylique. Et de 2, résiste moins bien pour les tapis au sol en fait. C'est pour faire des décorations murales, ça va très bien. Mais au sol, ça va, mais ça s'abîme plus vite. Et du coup, ben, il a fallu ramener cette laine. C'est 400 kilos de laine. Et...
Du coup, alors, c'était une bonne affaire, puisque tu les as payés 200 pour 200 et tu les as mis 400
ou... Ouais, ouais, bah, même de base, c'était une bonne affaire, parce que déjà, 200 kilos de laine, je me suis dit, allez, ça, c'est une bonne affaire, c'est cool, j'apporte plein de laine. Mais vraiment, à chaque fois que je vais chez ma mère et que j'entre dans cette pièce où il y a toute ma laine, à chaque fois j'essaie d'en ramener un petit peu, mais c'est
ça
ridicule.
Ça diminue pas.
Mais non, mais j'en ramène 10 kilos et puis, en fait, il y en a toujours autant. Et... voilà, je m'y suis habituée maintenant. Il faut juste que je fasse beaucoup de tapis.
Alors n'hésitez pas à commander des tapis à Hélène, elle est prête.
Il faut que... voilà, je suis au taquet. C'était aussi un stress, en fait, parce que c'était... c'est un engagement. Donc maintenant j'ai cette laine, il faut que je l'utilise.
Tu attends un peu, dans 40 ans tu la revends à une petite jeune qui viendra te l'acheter.
Bah, je me suis dit que c'était probablement déjà ce qui avait dû se passer et je trouvais ça très drôle, on verra. Mais comme faire des tapis ça consomme énormément de laine, on a calculé avec une amie qu'il me faudrait 5 ans pour tout l'utiliser. Donc ça va.
Ça va, t'as le temps de voir venir.
Voilà, et puis il me dit 5 ans c'est pas...
C'est pas si long non plus.
C'est pas si long non plus.
Exactement. Et elle, et la dame, tu avais vu ses tapis qu'elle faisait ou...
Non, elle, je lui ai demandé, mais elle avait pas de photos comme ça. Mais je crois qu'elle, elle les tissait vraiment. Oh. Ouais.
T'as eu le plaisir de découvrir des belles couleurs? Ou c'est beaucoup, c'est souvent la même couleur?
Alors, c'est des, on va dire, comment dire ça? C'est des vieilles couleurs. Va pas y avoir de vert fluo ou de rose bébé ou enfin c'est des couleurs qui sont très couleurs de tapis classiques en fait, des bordeaux, des rouges, mais c'est assez chouette. J'ai des très beaux verts, j'ai un vert argile un peu que j'adore, qu'on voit d'ailleurs là, mais il est mal éclairé.
Kaki ou t'appelles ça argile?
Celui du bas là.
Celui du bas,
ouais.
Mais en fait là il est un peu mal éclairé, mais il est très il est argile, enfin je l'aime beaucoup. Des très beaux oranges aussi, des un peu plus terracotta, des bordeaux, beaucoup de beige, mais du coup j'apprends à aimer le beige.
Mais non, c'est la grande mode du beige.
Voilà, mais en fait c'est quand même chouette parce que ça me donne une mini contrainte. Je me dis, j'ai cette palette à disposition, et puis du coup ça donne des choses intéressantes parce que typiquement j'ai pas de noir, j'ai que du brun ou du bleu foncé, du coup je remplace. Et je pense que j'aurais juste pas fait si j'avais du noir, je me serais pas posé la question plus loin. Je me suis dit, j'ai besoin de noir, je fais en noir. Et là, ça me permet de penser mes couleurs autrement. Et je trouve ça chouette.
Super. Bon, on va conclure alors.
Petite conclusion.
Merci Hélène de nous avoir reçus.
Bah, merci
ici.
À vous.
Ouais. Donc, on était à décalquer.
Exactement.
Donc, le jeu de mots, c'était K-Q-U-A-I. C'est pour ça qu'on a entendu les trains passer, parce qu'on est sur les bords de la gare, hein.
On est sur le quai.
On est sur le quai à Montreux, mais c'est déjà super bien isolé. Hein. Donc merci Hélène, merci pour la visite d'atelier, parce qu'on a découvert ton atelier, mais aussi les ateliers de tous tes voisins. Ça a l'air d'être une très bonne ambiance et un lieu de créatif extraordinaire. Donc bonne suite, bonne continuation à toi et merci encore.
Merci.
Merci beaucoup Hélène et belle continuation.
Merci
de nous avoir fait découvrir ce bel endroit insolite qu'on peut pas soupçonner quand on traverse les rues de Montreux.
Tu répètes ce que je suis en train de dire là en fait.
Ouais.
Tu coupes pas. Non, je coupe pas. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseaux d'Antipopcast pour tous ses conseils. À Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À dans 15 jours pour le prochain podcast d'Eco Déco.
Tu veux le refaire maintenant avec le...
Bah, je pense... C'est pas que je veux.
Je pense que c'est un peu...